Salut à tous, bienvenue dans votre émission 100% Olympique Lyonnaise, 0% Langue de Bois, comme chaque lundi. Il est présent sur ce plateau, notre consultant de choc, Nicolas Puy-de-Bois. Salut Nico.
Salut Razik, salut à tous.
Et on accueille un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais,
talentueux
de la part de Nicolas Puy-de-Bois, Fares Balouli. Salut Fares.
Salut tout le monde, salut Razik, salut Nicolas. J'espère que vous allez bien.
Alors, très bien, merci Fares, heureux de t'accueillir. Alors justement, on va expliquer quand même à nos téléspectateurs. Tu es à Istanbul en stage avec ton équipe ukrainienne. C'est pour ça qu'on va débuter directement avec toi pendant une vingtaine de minutes. Et puis après, on va libérer Fares qui a des obligations professionnelles.
Ouais, lui, il a des obligations professionnelles.
Exactement. Et on te remercie en tout cas d'avoir accepté, d'avoir joué le jeu avec nous. Pour les, notamment les nombreux supporters lyonnais qui sont très contents de t'accueillir.
Plaisir partagé.
Vraiment, sincèrement, c'est vrai que lorsqu'on a annoncé la présence de Fares,
je pense qu'il y avait des retours. Ouais,
dans cette émission, on voit beaucoup de supporters qui ont gardé une bonne image.
C'est normal.
De Fares. Pourquoi c'est normal?
Pas parce que c'était un jeune issu du centre qui avait des qualités qui annonçaient de belles promesses c'est attachant. Les joueurs du centre de formation, surtout quand ils jouent au ballon comme le fait Fares. Donc voilà, après sa trajectoire est particulière, mais il nous le racontera. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir.
Justement, tu évolues Fares en Ukraine, au FC Metal Kharkiv. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as débarqué dans ce club?
Bah, après mon passage à Lille, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Vous m'attendez? Allô, on m'entendait?
On t'entend,
Ouais, je vous disais, après mon passage à Lille, c'était un peu compliqué. J'ai résilié mon contrat avec eux et j'ai fait pratiquement un an sans jouer. Mm-hmm. Et après, quand on passe un an sans jouer, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, j'ai eu des moments très difficiles à Lille. J'ai même à un moment songé à arrêter le foot. Mais bon, après, le football me manquait. Ma famille, mes amis m'ont encouragé. Heureusement qu'ils étaient là. Et après, le contact, il s'est fait un peu par hasard. On a contacté mon agent par rapport à ce club. Moi, quand on m'a proposé le projet, c'est vrai que j'étais un peu réticent. Quand on entend l'Ukraine, c'est vrai que ça fait pas rêver. Mais bon, je voulais vraiment me relancer. Je voulais rebondir et me refaire une santé un peu loin des projecteurs. Et puis voilà, après j'ai pris contact avec le président, avec le coach, ils m'ont présenté le projet et il m'a plu et j'y suis allé.
Une vraie remise en question, ça c'est important dans le parcours de Fares,
parce qu'il
le dit, il voulait arrêter. Finalement, ses amis, son entourage lui ont dit « Non, Fares, tu as du potentiel, il faut te relancer ». Et il a accepté ce défi et c'est pas donné à tout le monde.
Non, mentalement c'est un gros effort. Que de se remettre en question, que de tout recommencer à zéro. J'espère que tu prends du plaisir, en tout cas, que tu retrouves le plaisir de jouer, que tu te fais plaisir c'est avec vrai. Le ballon, en match, à marquer des buts, à gagner des matchs, parce que c'est l'essence même du footballeur, en fait, du compétiteur.
Exactement.
Après, peu importe qu'on joue en Ligue 1, en Ligue des Champions, le propre du footballeur, au départ, c'est de prendre du plaisir à jouer au foot. Et avec le sourire qu'il a, ça se voit qu'il a repris du plaisir, ouais. Et je suis bien content pour lui.
C'est gentil. Non, c'est vrai que j'avais perdu ces dernières années un peu le plaisir du football. Le fait de jouer au foot, de prendre du plaisir, d'être bon sur le terrain, de s'amuser, de faire des belles prestations, de rendre heureux le public. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation. Et en allant en Ukraine, avec toute la confiance que j'ai eu du staff technique, du président, et surtout des supporters, tout l'amour qui me portent, ça fait que je m'épanouis tous les week-ends et je retrouve petit à petit mon niveau et ça me fait vraiment plaisir.
Justement, comment tu l'expliques ça, cet amour des supporters, que ce soit les supporters lyonnais ou justement des supporters en Ukraine, comment tu expliques qu'ils sont très attachés à toi?
C'est vrai que j'ai toujours eu une relation particulière avec les supporters, que ce soit à Lyon ou maintenant en Ukraine. Je sais pas, parce que peut-être ils sentent en moi que je suis sincère, que j'ai toujours pris le temps pour m'arrêter pour les supporters, toujours une photo, toujours une discussion. À chaque fois qu'on m'a sollicité, j'ai toujours été présent. J'essaie d'être moi-même et je pense que les supporters, ça, ils le ressentent.
Comme tous les lundis, TKYDG, hashtag TKYDG sur les réseaux. On est en direct sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube, sur Dailymotion, de partout, dans le monde entier, Nico.
Dans le monde entier,
on le répète tous les lundis.
En Ukraine, regarde.
En Ukraine, et là, il a Istanbul. Fares, est-ce qu'il a fallu mettre aussi ton, quelque part, quand on est footballeur, on a un ego forcément, c'est comme tous les artistes. Est-ce qu'il a fallu aussi, voilà, mettre un peu l'ego de côté et se dire, bah voilà, je suis obligé de repartir de plus bas pour justement, encore une fois, retrouver un peu les sommets?
C'est sûr que l'ego, c'est le problème de nous joueurs. On a du mal à accepter quand des fois il faut redescendre pour mieux rebondir. Mais bon, moi j'ai eu cette lucidité, peut-être un peu tard, j'aurais aimé le faire un peu plus tôt. Mais bon, j'ai pris le risque de redescendre plus bas, de retrouver un niveau plus bas pour mieux me construire, pour travailler plus sereinement. Et finalement, ça paye. Ce que je peux conseiller à plusieurs joueurs que quand ils ont un peu leur carrière un peu freinée, qu'ils osent, qu'ils prennent leur courage à deux mains et qu'ils aillent un niveau inférieur pour se refaire une santé, pour jouer, parce que le plus important pour un joueur, c'est de jouer, de performer, et tant qu'on joue, bah, y a toujours de l'espoir.
Il y a Nicolas qui nous dit, un supporter de l'Olympique Lyonnais, le sourire de Fares, c'est ce qu'on aime chez toi, c'est ça qu'on aime chez toi, en plus du talent. Donc ça, c'est vrai, c'est bien de garder le sourire, de positiver.
Il faut toujours sourire à la vie, toujours.
Non, mais on sent en plus la sincérité, la spontanéité dans le regard, dans les paroles de Fares. Mais au-delà de ça, les gens viennent aussi au stade pour voir les qualités de Fares. On paye nos places, on paye nos gâches pour venir voir un joueur comme Fares. C'est pas pour venir me voir moi, un gardien de but ou un défenseur central. On vient voir un numéro 10 qui tripote le ballon, qui fait des différences et sans extrapoler ou sans exagérer, mais des magiciens du ballon en fait. Les gens qui font la différence et qui apportent. Qui sont imprévisibles, c'est ça qu'on vient chercher. Et Fares fait partie de ces joueurs-là. Il a cette classe, il a ce talent qui change la physionomie d'un match.
Il y a Alex Lyonnais qui nous demande comment va ta vie ukrainienne. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien, comment ça se passe là-bas?
C'est vrai que c'est un pays totalement différent, la langue, les coutumes, les façons de vivre. Mais franchement, je me suis super bien acclimaté. J'ai ma famille qui est là avec moi. Allô?
Ouais,
j'ai ma famille qui est là avec moi, qui m'a rejoint. Mm-hmm. Et franchement, ça s'est fait tout naturellement. Et honnêtement, je me sens super bien dans ce pays, dans cette ville surtout. J'ai la chance d'être dans une grande ville. Mais honnêtement, je suis super bien. Moi, tant que j'ai ma famille avec moi, tant que je fais ce que j'aime et j'ai l'amour des supporters, c'est le plus important.
C'est le plus important et on le voit, pas mal de messages vraiment sur les réseaux sociaux, notamment là sur Twitter. Fares à l'OL, ce ne sont pas des souvenirs, c'est une philosophie, une spiritualité née dans l'essence même de ce qui fait la beauté du ballon rond. C'est la joie de jouer, de créer, de partager un moment de vie et de magie sur un terrain. Fares à l'OL, c'est le football.
C'est le football. Enfin, moi, je dis pas mieux, effectivement, mais c'est ce que je te disais. Hein. On vient au foot pour ces joueurs-là.
Alors, et en même
il faut les autres, je suis d'accord.
Non, c'est pas ce que j'allais dire.
Mais ceux qui font rêver, c'est les joueurs comme Fares.
Est-ce que, Nico, toi qui as été formé aussi à l'Olympique Lyonnais, qui est lyonnais en plus, est-ce que c'était pas trop de pression sur les épaules de Fares?
Je pense que ça fait partie aussi de la lassitude qu'il a pu avoir, parce qu'on on engendre une attente trop importante pour des épaules d'un jeune joueur qui n'a pas fini son cursus, qui a des qualités certes, mais qui n'a pas encore prouvé sur la régularité, sur le moyen long terme, que ça pouvait être un très très bon joueur. Et ça, pour le coup, ça engendre une pression supplémentaire. Peut-être on surjoue par moment, ce qui nous fait déjouer quand on est sur le terrain. Et c'est pour ça que je pense que tu retrouves du plaisir aujourd'hui, à mon sens, parce que t'es loin de toute cette pression. Et là, t'es vraiment concentré que sur le jeu, rien que sur le jeu, et pas sur l'enjeu.
C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu le problème des joueurs prometteurs tôt. Et que on le voit directement, on le projette directement au devant de la scène, on le met vraiment en lumière, et souvent ça brûle les ailes des joueurs parce qu'ils se voient directement arriver au niveau, alors que en soi on n'a pas vraiment prouvé, on n'a pas fait des prestations, on a juste prouvé dans le monde jeune. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand il y a beaucoup d'attentes sur un joueur. On laisse pas finir sa formation, on laisse pas se construire, avoir le maximum de bagages pour affronter ce monde professionnel, justement.
C'est un vrai métier et c'est compliqué à appréhender. Le nombre de joueurs qui ont été comparés à Zidane et qui n'ont pas fait de carrière, les Marvin Martin, même Johan Gourcuff, si on va par là, même s'il a fait quelques belles années. Mais ouais, c'est dur à porter. C'est dur à porter. Et quand on a des qualités, il faut laisser le temps au temps. Et je ferai un parallèle avec Ryan Cherki. Il ferait bien de écouter ce que Fares peut dire, parce qu'il a un peu la même trajectoire. C'est-à-dire que c'est un joueur très prometteur sur qui on met beaucoup d'attentes.
Issu de la région lyonnaise.
Issu de la région lyonnaise et qui montre un peu d'impatience. et qui montre un peu d'impatience, voilà, faudrait pas qu'il se brûle les ailes ou qu'il se, ou en tout cas, qui puisse pas s'épanouir à 100% en voulant brûler les étapes.
C'est, on va donner le ballon. Je vais donner le ballon. Moi aussi, j'ai envie d'être footballeur. Donner le ballon à Fares.
Vas-y, Razik, numéro 10 de tes tranquillères des gones.
Et poser la question, justement. Te poser la question. Est-ce que tu aurais un petit conseil, voilà, par exemple, à Ariane Cherki ou à tous ces jeunes prometteurs, justement, issus comme toi de la région lyonnaise, qui aspirent à briller avec le maillot de l'Olympique lyonnais? Est-ce que tu as des choses à leur dire?
Bien sûr, que moi, parce que moi, je suis passé par là. J'ai fait quelques erreurs. J'ai été impatient. J'ai voulu jouer rapidement, ensuite c'est pas venu, du coup j'ai voulu partir. Moi, ce que je peux conseiller aux jeunes joueurs, c'est de se préparer, de se préparer au haut niveau, de travailler tous les jours, attendre sa chance, même si des fois c'est pas mérité, même si des fois on mérite plus que certains, mais toujours travailler, travailler. Comme ça, quand le jour J il arrive, ça sera le moment de prouver que tu as ta place, que tu peux faire ton trou, et il n'y a pas de secret. Faut jamais arrêter de travailler, jamais arrêter de travailler, parce que si on s'arrête de travailler quand tu as le talent, les autres joueurs ils continuent à bosser et à la fin ça fait la différence. De toujours toujours travailler et attendre, être patient, se armer de patience, de prendre tout le bagage qu'il faut pour être prêt au niveau.
Est-ce que tu as des regrets? C'est bien qu'il l'a dit.
Merci.
Franchement,
merci. Bravo.
honnêtement, c'est tout à son honneur de
C'est
se
vrai.
remettre en question et de l'avouer aujourd'hui après quelques années justement, après son passage du côté de l'Olympique lyonnais. Est-ce que tu as quand même quelques regrets, Fares, ou pas du tout? Tu as digéré tout ça et tu es passé à autre chose?
Non, à l'heure d'aujourd'hui, ça va. Je retrouve du plaisir. Je retrouve un club qui a une ambition. Après, bien sûr que je regrette quelques comportements dans le sens où j'ai été impatient, j'ai voulu jouer rapidement, j'ai pas toujours quand j'ai subi des injustices, j'ai relâché le pied, j'ai pas travaillé alors que j'aurais dû prendre ça en tant que tu vois que comme une arme, tu vois,
Motivation
j'aurais dû
supplémentaire.
m'entraîner exactement, j'aurais dû prendre ça comme voilà travailler tous les jours en plus, prendre moi l'impatience et attendre. J'ai été un peu impatient, j'ai fait quelques erreurs. Mais bon, maintenant le mal est passé. Maintenant, je retrouve une santé là où je suis content. Je retrouve, et surtout, je retrouve mon niveau. Je commence à faire vraiment des matchs de qualité où je retrouve mes jambes. Les supporters, ils sont contents. À chaque fois qu'ils viennent, j'essaie de leur faire plaisir parce que j'aime un peu ce foot, un peu spectacle, mais tout en restant un peu dans l'efficacité. Ça fait que je retrouve du plaisir. Je suis content, y a pas de problème.
Il y a Nas qui nous demande, Fares, tu peux raconter l'énervement de Rémi Vercoute quand tu lui as mis une lucarne à l'entraînement.
Ah, Rémi, il n'aimait pas trop quand les jeunes il lui mettaient quelques buts. Après, je pense que ça, c'est un peu tous les gardiens. Il n'aimait pas quand on arrive vers lui
Vois
et
pas de
qu'on
quoi
faisait
tu
des petits
parles.
piquets. Ah, ils n'aimaient pas. Mais bon, après, ça reste bon délire et bonne enfance et c'est sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il aimait pas quand je lui mettais des piquets et quand je lui mettais des beaux buts.
Tu sais que la famille Balloui, c'est une famille de footballeurs.
Et ça, j'ai vu ça, oui.
Au masculin comme au féminin.
Exactement.
Notamment,
C'est beau.
voilà, non, mais c'est super beau. Et moi, à l'époque, et c'est pour ça que quelque part, je suis content de retrouver Fares. Voilà. J'avais fait un article justement avec Fares, avec sa famille.
Exactement, bien sûr.
J'avais été très bien accueilli par ton papa, qui est quelqu'un vraiment de formidable, de très gentil, de très simple. Et voilà, cette
C'est vrai.
photo, elle est belle. Fares, j'imagine que c'est aussi la fierté de voir, que ce soit Mohamed, que ce soit ta sœur Nesrine, de voir tout le monde comme ça jouer au football.
Bien sûr, ça c'est notre papa qui nous a transmis ça. C'est très familial. Depuis tout petit, on fait que ça, jouer au foot. Et je pense que c'est venu de là, nous voir tous les jours avec mon petit frère jouer dans le salon. Notre mère qui nous courait après parce qu'elle avait peur pour les vases,
C'est ça,
pour
ça
ses
vient de
meubles.
ça.
Exactement. Après, je pense que c'est de là que Nesrine a pris goût, que Djibril a suivi aussi mon petit frère. Et ça fait toujours plaisir. Et moi, je suis super fier d'eux. Je leur souhaite le meilleur. Je suis ça de loin parce que c'est un peu compliqué par rapport à la distance.
Bien sûr.
Mais je leur souhaite le meilleur et je sais qu'ils ont les qualités pour faire quelque chose de beau.
Ça sort Nesrine qui joue à
À
l'Olympique
l'Olympique
lyonnais.
lyonnais, oui, c'est
Voilà,
ça.
c'est pour ça que c'est beau justement. C'est vraiment encore une fois une belle histoire et on lui souhaite le
Magnifique.
meilleur. Et autre chose aussi, parce que ben, je suis bien informé, forcément, Lyon c'est un village. Il y a la préparation invisible, Fares. C'est qu'en fait aujourd'hui, même quand tu viens à Lyon en vacances, Eh ben, tu
Ah bah
t'entraînes,
ouais.
tu as un préparateur physique, on le salue, Nabil, ton coach,
Exactement,
à Lyon.
exactement.
Et ça aussi, c'est-à-dire que tu as compris qu'il fallait bosser, comme tu l'as dit, c'est pas que des paroles en l'air, même quand tu es en vacances, tu bosses énormément.
Non, c'est sûr que j'ai pris de la maturité. Maintenant, le football, j'en ai fait ma priorité. Et je sais qu'on a besoin d'avoir toutes les armes pour se préparer au niveau. Et un joueur professionnel digne de ce nom n'a pas le droit de passer un mois de vacances et ne pas aller à la salle. Faut toujours s'entretenir, toujours travailler, arriver en forme. Et c'est pour ça et ça, je l'ai compris maintenant. Ça fait qu'à chaque fois que je suis à Lyon ou que je sois peu importe où je sois, j'ai mon programme, que ce soit alimentaire ou physique, et je continue à travailler. Il y a que avec le travail que ça paye, de toute façon.
Ça, c'est important l'alimentaire, hein,
Il faut
Nico.
qu'il nous envoie son
Ben
programme.
moi,
Enfin, à moi, faut qu'il m'envoie
j'ai
son
mai, j'ai
programme.
maigri. Moi, j'ai maigri. J'ai arrêté les tacos. J'ai arrêté les tacos, monsieur. au niveau des ambitions, Fares, quelles sont tes ambitions
Ouais,
maintenant? Est-ce
très
que tu
bonne
souhaites
question.
retrouver, voilà, je sais pas, le plus haut niveau, la
C'est quoi
Liga,
la
par
suite?
exemple? C'est quoi la suite?
Moi, honnêtement, pour l'instant, je me sens super bien dans mon club. Le club, là, on est en deuxième division, mais on est premier avec 12 points d'avance. On est encore qualifié en coupe. Franchement, j'espère monter avec mon équipe et continuer à progresser l'année prochaine en première division. J'espère vraiment faire au moins une bonne saison en première division et après voir les choses venir. Bien sûr que s'il y a un club européen qui me permet de jouer l'Europe ou autre chose, bien sûr que j'irai. Hein. C'est vraiment mon objectif. Je travaille tous les jours pour atteindre le haut niveau, que ce soit avec mon club ou avec un autre. Mais déjà, je suis très content de ma place avec mon club. On a un super projet. On espère monter en première division, faire des bonnes saisons et pourquoi pas se qualifier pour l'Euro.
Nico, pour finir,
Pour l'Europa
ouais.
League, excusez-moi.
Pour l'Europa League, ouais, effectivement, pour l'Europa League. Nico, maintenant à toi aussi, quelques petits conseils, parce que tu es un peu plus âgé. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à Fares, qui encore une fois, là, s'est mis au diapason, a tout mis en œuvre pour revenir sur le devant de la scène, entre guillemets. Qu'est-ce que
Bah,
tu pourrais lui dire?
franchement, là, j'ai rien vraiment à lui conseiller parce que quand on entend son discours, il a compris que le footballeur professionnel c'était un métier, qu'il y avait vraiment des choses à faire que le commun des mortels n'était pas capable de faire. Et c'est pour ça que les joueurs de très très haut niveau sont Karim Benzema, Cristiano, ils sont à ce niveau-là, c'est parce qu'ils font des choses que moi je faisais pas ou que d'autres ne font pas. Et Fares, avec le talent qu'il a, si il travaille comme il le fait et qu'il retrouve son niveau, il pourra faire de belles choses. Non, je lui souhaite le meilleur, moi, en fait. Enfin, en fait, il a fait ce que moi, j'ai pas fait. À la fin de ma carrière, quand je me suis arrêté à Nîmes, j'ai eu la possibilité d'aller soit en Afrique du Sud, soit en Grèce, soit dans des pays un peu exotiques pour continuer à jouer au foot. Et moi, je l'ai pas fait. J'ai pas eu ce courage-là de partir avec ma famille. J'avais mes jumelles en bas âge, elles avaient 6 mois, et j'ai pas eu le courage de faire ce que tu as fait. Ce qui fait que ma carrière
Bien
s'est
sûr,
arrêtée
c'est
à
pas
30
évident.
ans. Ce qui fait que ma carrière s'est arrêtée à 30 ans. Malgré ce que j'avais pu faire en Europe avec la Ligue des Champions, avec l'OL ou les titres de champion, voilà, j'aurais pu m'épanouir et m'amuser comme toi tu le fais actuellement. Donc j'ai arrêté de prendre du plaisir, ce que toi tu fais contrairement à moi. Donc je te souhaite de prendre encore plein de plaisir, continue ta progression
Merci beaucoup.
et grâce à l'Ukraine et l'image que tu vas renvoyer et les bonnes prestations que tu vas faire, je ne doute pas que tu rebondiras.
J'espère. Merci beaucoup en tout cas. C'est gentil. Merci Nicolas.
Merci, ben voilà, ben on va le laisser, on va le
Merci
libérer,
merci
parce que
ouais. Merci
voilà,
beaucoup
faut
d'être
respecter.
venu.
Homme de parole, t'as un homme de parole, j'en suis un aussi.
Y a
Merci
pas de
beaucoup,
souci.
Fares.
Merci à toi, Razik, c'est super gentil. Merci à toi aussi, Nicolas. Et ça se fait un
Continuation, ouais.
plaisir de partager ce moment avec
Belle
vous.
réussite à toi.
Merci, à bientôt.
Salut
Merci
Fares.
beaucoup.
Salut
Ciao,
Fares,
allez,
salut,
salut.
à bientôt.
Ciao.
Et voilà, ben on va passer au deuxième thème de TKYDG. Hein. C'était un peu un
Allons-y,
programme
vas-y.
bouleversé, hein. On a bouleversé un peu
Mais
les...
c'était chouette de l'avoir, c'était chouette de partager. Voilà, comme quoi le foot ne s'arrête pas ni à la Ligue 1, ni à l'OL. On peut s'épanouir et prendre du plaisir un peu de partout, même quand on a du talent. Et reculer pour mieux sauter, c'est l'expression lui colle bien, parce que je pense que c'est ce qui va se passer pour Fares.
Allez, place au deuxième thème de TKYDG. Le deuxième thème, tout Lyon en parle, forcément le départ de Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes,
ah bon,
oui, vous avez t'as suivi l'actualité, il ne faut plus de bois.
Malheureusement, ouais.
L'Olympique Lyonnais a consenti à voir partir à Newcastle l'un de ses meilleurs joueurs, le milieu international brésilien, Bruno Guimaraes. On va d'ailleurs regarder, pour rentrer dans le vif du sujet, les chiffres concernant ce départ. C'est vrai que c'est des grosses sommes en jeu, Nico. Est-ce que, première question, est-ce que tu comprends que l'Olympique Lyonnais a décidé de laisser partir Bruno Guimaraes?
Je comprends l'aspect économique. Je comprends que on l'a bien vendu par rapport à ce qu'on avait pu l'acheter. Ouais, il faut remplir les caisses.
C'est quand même un gros chiffre, 50 millions. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a des sommes il y a des sommes qu'on ne peut pas refuser. Après, on sait qu'aujourd'hui, l'OL est dans un contexte où on n'a plus la main. C'est l'économique qui prime sur le sportif, parce que on est dans une situation post-Covid qui ne nous permet pas d'avoir les reins solides pour pouvoir conserver nos joueurs, qu'on le veuille ou non. Actuellement, il faut faire aussi avec, à l'instant T, le contexte économique qui est celui de l'OL. Donc, économiquement et en termes de chef d'entreprise, je comprends tout à fait parce que c'était le seul qui était bankable, entre guillemets, avec Lucas Paqueta. Donc, les deux qui ont une valeur marchande, ce sont ces deux joueurs. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait eu des offres sur les deux joueurs, et l'OL en a accepté sur l'un des deux. Et c'est là que j'aimerais que ça fasse réfléchir certains, comme Oussem Aouar qui a des velléités de départ depuis un petit moment. On s'aperçoit que quand on est bon, qu'on performe et qu'on devient un leader de l'équipe, et qu'on est régulier dans ses performances, il y a des offres qui arrivent. Et on arrive à... Alors, il part pour Newcastle, qui est dernier de Première Ligue, mais avec un projet économique et sportif ambitieux. Donc voilà, mais ça m'embête un peu.
C'est déjà la question que j'allais te poser.
Ça m'embête clairement, même sportivement.
Pendant qu'on voit justement les images...
On en faisait un capitaine, Razi.
Les images de Bruno Guimaraes, l'image tournée par Anthony Ravas, j'aimerais justement t'interroger là-dessus, Nico. Est-ce que ça t'embête, ou pour toi, il ne faut pas non plus en faire un psychodrame de voir partir Bruno Guimaraes?
Alors, je suis partagé entre les deux. Effectivement, il ne faut pas faire un psychodrame, parce que quand on est coach et quand on est... Alors, les supporters, ils peuvent en faire un psychodrame. Quand on est coach ou quand on est footballeur professionnel, on fait avec les gens qui restent, avec ceux qui veulent se battre pour le maillot et qui vont au bout de leur contrat ou au bout de la saison. Là, force est de constater qu'on n'avait pas le choix de refaire. Voilà, c'est une grosse somme d'argent, c'est difficile à refuser. Mais
toujours tiraillé, Nico Pupois.
Toujours tiraillé par le fait qu'on en avait fait notre sentinelle. Enfin, l'un de nos deux six qui était titulaire indiscutable, qui s'installait même en tant que leader de cette équipe. On en parlait pour devenir un véritable capitaine. Pardon, vas-y.
Non, c'est moi qui ai court-circuité un peu la régie. Je suis désolé. C'est parce que j'ai vu pendant que tu parlais, c'est moi qui ai envoyé le fameux tweet de Slayer Gun qui nous dit désolé la régie. Mais à culpa, j'ai l'impression qu'on est constamment en reconstruction. Guimaraes était bien parti pour devenir capitaine.
C'est ça,
ce que tu disais. C'est
voilà,
pas ça.
C'est ça qui me déçoit. Je suis pas déçu, mais c'est ça qui fait que je suis un peu mitigé, parce que il s'installait, il avait mis peu de temps à s'intégrer. Il parlait très bien la langue. C'était vraiment un capitaine potentiel, et je le voyais s'installer durablement dans l'effectif lyonnais. Voilà pourquoi je suis un peu tiraillé par son départ. Après, à la cellule de recrutement, il ne leur reste pas beaucoup de temps. Hein. On est le 31 à 19h, bientôt 18h30. Il ne leur reste pas beaucoup de temps pour travailler et bien travailler. Donc et essayer de le remplacer. Mais bon, voilà, on va faire avec l'effectif en présence, avec les forces en présence, comme à chaque fin de mercato, et puis essayer d'atteindre les objectifs. Après... quand on est capable de vendre l'un de ses meilleurs joueurs, est-ce qu'on doit être étonné de la position de l'Olympique Lyonnais actuelle? Voilà, c'est la question que je me pose, mais même si j'ai ma réponse.
Il y a Oulaloui qui nous dit je crois sur YouTube, parce que vous pouvez réagir aussi sur YouTube.
Plein de plateformes.
N'hésitez pas à mettre j'aime. Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Olympique et Lyonnais. Merci en tout cas pour votre fidélité. On perd un bon joueur, mais pas irremplaçable. C'est ce que dit Oulaloui. On va se renforcer avec 2-3 bons joueurs, on va l'évoquer tout à l'heure, pour chercher la qualif à la Ligue des Champions, tout en remplissant les caisses. Ce n'est pas un luxe dans le contexte actuel.
Non, mais c'est sûr. Il a bien résumé la situation. Après, on vend quand même l'un de nos meilleurs joueurs et l'un de nos joueurs les plus réguliers en termes de performance. Voilà, c'est ça qui me pose question, en fait. Mais forcément, c'est souvent les joueurs les plus performants qui partent, parce que c'est les joueurs les plus performants qui ont des offres. simplement.
Avant de voir la réaction de Bruno Guimaraes qui a réagi sur les réseaux sociaux, on va l'écouter. Il y a Pascal qui nous dit, de plus, on espère que Paqueta ne sera pas trop affecté par ce départ parce qu'ils étaient très liés.
Bah là, ça commence à faire pas mal pour Lucas Paqueta en termes de départ. Juninho qui l'a fait venir et dont il était très proche. Bruno Guimaraes dont il était très proche également. Voilà, j'espère qu'il sera pas trop esselé au sein du vestiaire, j'espère qu'il est bien intégré au sein du vestiaire, de façon à ce qu'il trouve pas trop seul. Mais oui, ça commence à faire quelques départs importants pour lui en termes affectifs.
Programme très chargé.
Et ça compte.
Programme très chargé dans cette émission, Nico. Mais on va quand même.
Je vais essayer d'être moins bavard.
Non, mais c'était juste pour te le dire. Juste te prévenir comme ça. Voilà, c'était gratuit, mais c'est comme ça. On va écouter, je te propose d'écouter justement la réaction de Bruno Guimaraes.
Chers supporters, depuis mon premier jour à l'OL, j'ai toujours cherché à être intense et me donner à 100% sur le terrain et aussi en dehors. C'est fou, une belle et affectueuse relation, de respect et de collaboration. Je remercie Juninho pour tout son soutien et parce qu'il a cru en moi depuis le début et dans les moments plus difficiles. Je remercie aussi les supporters, tous mes coéquipiers, tous les staffs et les employés du club pour leur affection et leur soutien. Vous m'avez de suite adopté. Vous avez été incroyable avec moi depuis le premier jour. C'est fou, un honneur et un plaisir de porter ce maillot lyonnais. Je pars et je vous remercie pour tout. Merci Lyon, merci Loël. Je serai toujours votre gagne. Avec affection, Bruno Guimaraes.
Voilà, franchement,
c'est touchant, c'est
sympathique.
Il se professionnalise en termes de communication, donc
oui.
C'est vrai que c'est.
Mais c'est sincère, pour le coup.
J'ai pas dit.
Non, mais je le dis parce que j'ai vu hier des remarques en disant oui, mais c'est une agence.
Après,
oui,
c'est travaillé, forcément.
C'est travaillé.
Aujourd'hui, ils sont entourés.
Mais
on sent qu'il est affecté, qu'il a passé du bon temps à l'Olympique Lyonnais, qu'il a été aimé des supporters et qu'il a partagé la relation.
C'est un bon gars, sincèrement, c'était un bon gars en dehors, et c'est vrai.
Après, qu'on le veuille ou non, si on me proposait 4 fois le salaire que je touche à tant qu'il y aura des gones, peut-être que je ferais des choix, Razik. Non, mais du coup, on lui propose 4 fois son salaire qui était déjà pas mal, qui était déjà très important. On peut comprendre.
Tu vas aller à Paris?
Non, pas du tout.
Radoté à Paris.
Donc, du coup, ici, en fait, c'est la meilleure émission. Je suis au bon endroit, au bon moment.
C'est la meilleure gâche.
Comme à chaque fois que j'ai été à Lyon, avec l'OL. J'étais au bon endroit, au bon moment aussi. Non, après, on peut comprendre en termes de joueurs. Aujourd'hui, il part pour 4 fois plus. N'importe qui, dans sa position, réfléchirait. Il va mettre sa famille à l'abri financièrement. C'est pas du luxe quand on est brésilien. Donc ce qu'on lui a proposé était intéressant. En fait, je pense que dans cette relation-là, enfin dans ce transfert-là, pardon, tout le monde est gagnant. Le joueur, le club qui va le recevoir parce qu'il a un très bon état d'esprit, et l'OL qui financièrement va pouvoir faire des choses. Donc voilà, si tout le monde y gagne, c'est pour ça que ça se fait.
Allez, on va regarder, découvrir la réaction de Peter Boss, justement, suite à ce départ de Bruno Guimaraes. Pour moi, comme entraîneur, il était très important. Sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. C'est un vainqueur, mais aussi un bon mec. Je comprends très bien le club. Autant d'argent, c'est beaucoup. Newcastle deviendra un très grand club. Il sera l'un des premiers joueurs à avoir signé là-bas.
Ouais, je suis d'accord avec le coach. Après, ça ressemble un peu, ouais, comme Verratti quand il arrivait à Paris après les Qataris et tout ça. Et c'est pas étonnant que Newcastle se penche sur un joueur comme Bruno Guimaraes.
Mais forcément, ça interpelle, ça interroge qu'on laisse partir lors de ce mercato hivernal un tel joueur. Et il y a Dominique Blanchard, ancien journaliste pour LCI, qui a fait un tweet, et il y a Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui lui a répondu. Et la réponse peut être intéressante dans du décryptage, de décrypter sa réponse. Mon cher Dominique, on ne vend pas nos meilleurs joueurs, mais on nous les attire avec des moyens que nous n'avons pas. Bruno va multiplier par 4 son salaire et mettre à l'abri, sans S, sa famille. Quant à nous, outre la reconnaissance du savoir-faire de l'OL, on va pouvoir continuer à construire. Quelle est ton analyse de cette explication signée Jean-Michel Aulas?
Alors déjà, il défend son choix et il a raison. Guimaraes, comme je viens de le dire, va multiplier par 4 sa rémunération. C'est pas anodin. Quand on est déjà à 200, 220 000 euros par mois, on passe à 800, c'est encore moins anodin. En gros, il va prendre par semaine ce qu'il prenait par mois. Et puis l'OL va avoir assez d'argent pour pouvoir acheter un ou deux joueurs, je l'espère, d'ici minuit. Et en tout cas, voilà, dans un contexte économique où au mois de janvier, on aurait pu rentrer de l'argent avec Saint-Etienne et Paris Saint-Germain et qu'on n'a pas pu le faire, c'est une somme d'argent qui n'est pas refusable. Le président, donne ses arguments. On peut ne pas être d'accord parce que sportivement, on aurait aimé garder notre meilleur joueur. Économiquement, comme il l'explique très bien, c'est irrefusable.
On va regarder l'infographie des ventes, des meilleures ventes du côté de l'Olympique lyonnais, justement, avec un certain Tanguy Ndombele. On aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Alex Lacazette. Pareil, Alex Lacazette, il y a pas mal de bruit.
Ouais, mais, les deux vont peut-être revenir.
C'est pour ça que Nico, il a envie de vendre, entre guillemets, du rêve aux supporters en disant jusqu'à minuit, comme s'il allait se passer pas mal de choses. Bruno Guimaraes.
On verra si Bruno Chéreau travaille bien ou pas. On verra. Enfin, en même temps, il récupère voilà, la situation. Quoi.
Ferland Mendy et Coco Tolisso. Voilà un peu les meilleures ventes.
Ah, c'est dans l'histoire récente de l'OL qu'on a très bien vendu comme ça, avec l'inflation des mercatos, des transferts et des salaires. C'est pas étonnant.
Allez, très rapidement, au rayon des départs, pas mal, quelques jeunes des prêts surtout. On a Sofiane Ogaro qui est prêté en Belgique, en Ligue 2. On a Flo da Silva qui est prêté du côté de Villefranche, donc c'est à côté, pour avoir un peu de temps de jeu.
Ouais.
Et puis un transfert de Griffiths du côté de la Détroit, Détroit anglaise à Doncaster. Voilà pour un
je trouve que c'est bien pour nos jeunes joueurs qui ont peu de temps de jeu avec les pros, d'aller voir à l'échelon supérieur un peu en étant prêté. Il faut jouer à cet âge-là, c'est ce qu'on dit souvent. Voilà, ils n'ont pas le talent de Ryan Cherki peut-être, mais en tout cas, ils ont besoin d'enchaîner les matchs, d'enchaîner le temps de jeu, d'apprendre leur métier pour ensuite peut-être devenir des joueurs de l'effectif lyonnais.
Et
il faut jouer.
Et il y a une petite incertitude qui concerne Islam Slimani, qui pourrait
partir au Sporting,
etc. À Lisbonne.
C'est
donc
l'instant nos amis algériens nous ont pas.
Bah ils disent que c'est fait. Après c'est démenti, que ça peut être un prêt, que voilà.
On va perdre de l'audience là.
Donc on va perdre de l'audience tous les lundis effectivement. Il est en forme Nico Puy-de-Bois. Rendez-vous sur www.olympiqueetlyonnais.com pour suivre justement toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais et concernant ce mercato hivernal. C'est l'heure. Mais Nico, de
la troisième partie de l'émission.
Exactement. Allez, jingle. Un départ et deux arrivées. Nico Puy-de-Bois, c'est officiel avec Romain Fèvre qui arrive de Brest et qui s'est engagé en faveur de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, on va regarder les chiffres de ce transfert de Romain Fèvre. Un transfert à 15 millions d'euros. Plus 2 millions d'euros de bonus avec 15% sur une éventuelle plus-value. Et c'est un contrat jusqu'en juin 2026. Première question, Nico. Bon choix de l'OL.
Bon choix par rapport aux sportifs. J'aurais un bémol sur l'aspect état d'esprit. Il a été capable de ne pas partir avec son équipe pour qu'il y ait un transfert qui se fasse mais qui ne s'est pas fait. Donc voilà, je mets un petit bémol à lui de nous montrer qu'en fait, il a tout. En plus d'être un bon joueur, il a aussi l'état d'esprit, qu'il s'investit pour son équipe et qu'il n'est pas que individualiste pour que les opérations se fassent en son sens. Donc voilà, autrement, sportivement, je trouve que c'est un bon joueur, c'est peut-être une bonne pioche. À voir sur quel poste on va l'utiliser. Et ce qu'il va pouvoir apporter à l'Olympique Lyonnais, mais voilà, ça peut être une bonne pioche.
Ouais, c'est vrai que c'est un joueur talentueux qui est âgé de 23 ans, qui est présenté en tout cas comme un joueur talentueux. On l'a vu, hein, c'est vrai, sur ses prestations.
Ouais, il est régulier, il est performant. On parle de lui depuis
il a marqué 7 buts,
quelques temps,
dont 5 pénaltys. Pénalty pour Lyon.
Pénalty pour Lyon.
Et il a délivré.
On a des forces en présence.
Et il a délivré 4 passes décisives. Et puis il est présent sur Twitter aussi, donc là ça fait.
Ça après, c'est plus mon domaine.
Il y a beaucoup. Spécialité lyonnaise. On va ensuite enchaîner avec un autre joueur, un peu plus bankable forcément, avec quand même qui suscite de l'enthousiasme, hein, faut le dire, du côté des supporters de l'Olympique lyonnais. C'est Tanguy Ndombele qui fait son retour dans la maison lyonnaise. C'est un prêt payant avec option d'achat de 6 mois, 1,42 million d'euros. Nico. Même question, Nico. Est-ce que, pour toi, c'était pas prévu sur le papier?
Non.
C'est une opportunité de marché, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu trouves ça plutôt séduisant sur le papier?
Dans la configuration actuelle de l'Olympique Lyonnais, dans le schéma tactique, je vois pas comment on va pouvoir l'utiliser. Pour moi, c'est un milieu relayeur, un pack player, mais plutôt relayeur. Dans notre 3-5-2, on a plutôt 2-6 et puis des numéros 10 ou des, enfin voilà, et des pistons sur le côté. Donc peut-être il a, son arrivée va permettre à Peter Bosch de changer son schéma tactique, mais en tout cas par rapport aux qualités qu'il a, par rapport au fait qu'il connaît déjà le club, il connaît déjà la ville, son intégration.
Il s'est révélé à l'Olympique Lyonnais.
Bien sûr. Donc
en 2010,
selon moi, son intégration sera intéressée. Non, mais ça sera bien plus rapide, pardon.
Non, il n'y a pas de souci.
C'est vrai qu'on s'est coupé l'un et l'autre.
Ouais, c'est de ma faute. Entre 2017 et 2019, il s'est révélé du côté de l'Olympique Lyonnais.
Oui, il a explosé chez nous, bien sûr. On savait qu'il avait des qualités et c'est vraiment... Non, c'est un joueur qui, quand il est au top de sa forme, il fait des différences. La barre du Parc des Princes tremble encore. Donc non, mais c'est sûr que voilà, il s'est révélé chez nous. À lui d'être régulier, à lui de faire preuve d'un bon état d'esprit. De toute façon, il vient, selon moi, pour se relancer.
Donc clairement.
Voilà, c'est tout bénef pour l'OL si il vient avec le bon état d'esprit, il va s'inscrire pour pouvoir être performant. Donc je pense que c'est un renfort, mais pas dans le schéma actuel.
Il y a Anto qui nous dit du coup, on va souvent revoir Mendes en 6, vous pensez pas voilà. Parce qu'à part Cacré, on n'a pas de défensif. Voilà, effectivement, c'est
ouais,
vrai que ça.
C'est une bonne remarque.
Non, mais au-delà effectivement de ce mercato. Non,
mais c'est pour ça que c'est le profil, on remplace pas numériquement Guimard.
Si, tu m'as devancé.
Voilà, non, on le remplace pas, on remplace. C'est pas des remplacements poste pour poste.
C'est problématique pour toi ou tu parce que c'est par la force des choses, ils ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient et qu'ils avaient cette opportunité encore une fois de marcher. Comment tu analyses ça, toi?
Oui, je pense que dans les plans du coach, oui, c'est plus Cacré et Mendes qui vont jouer en numéro 6. Je pense qu'on risque de voir un nouveau schéma tactique à l'OL parce que autrement, comment on insère ces deux joueurs-là, quoi. C'est vraiment ça ma problématique actuelle.
Il va jouer en 6 avec Cacré, comme il a joué à Tottenham.
Alors nous qui voulions une assise défensive, en tout cas un équilibre défensif. Avec ces deux joueurs-là, il va falloir vraiment qu'ils combinent et qu'ils communiquent beaucoup parce que les deux ont tendance à se projeter, les deux ont tendance à faire un pressing un peu fort. Donc, si les deux y vont en même temps, il y aura beaucoup d'espace dans le dos de notre milieu de terrain. Donc, voilà, c'est pour ça que pour moi, il faut garder ce rôle de sentinelle que pouvait avoir Bruno Guimaraes. C'est lui qui restait en place. Il se projetait par moment, mais il se projette beaucoup moins. C'est pas son ADN de se projeter beaucoup moins que Tanguy Ndombele ou que Maxence Cacré. Donc, si on joue avec ces deux profils-là, il risque d'y avoir de l'espace dans notre dos.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je vois pas mal de réactions de supporters qui commencent justement à évoquer des schémas tactiques, des choix, etc. Il va falloir faire effectivement des choix et un embouteillage au milieu de terrain, là, clairement.
Il y a beaucoup de milieu de terrain.
C'est un gros bouchon, c'est les bouchons de Lyon, là.
C'est ça, mais pas en poste de ce numéro 6 sentinelle.
Voilà.
Donc oui, je pense que Thiago Mendes va pouvoir revenir et regagner un peu de temps de jeu. Et puis bah, pour les autres, ils vont rentrer dans la rotation. Je suis perplexe par rapport
à leur recrutement. Oui,
je suis perplexe par rapport à ce mercato. Je suis perplexe. J'attends de voir aujourd'hui. Voilà, on a des annonces. C'est pour ça on va parler des futurs matchs. Et je sais qu'il va falloir que j'annonce mon 11 de départ.
Oui, une copie de bois.
Et du coup, je m'y prépare et je ne sais pas quoi te répondre déjà.
On est sur le mercato, monsieur Puitbois. On aura l'occasion d'évoquer tout à l'heure le 11 de départ.
Je sais pas. Après, je ne sais pas si c'est le coach qui a fait ces demandes-là, ces profils-là. Parce que il a une idée derrière la tête ou une philosophie de jeu qu'il veut remettre en place.
Soyons sincères. Au départ, il voulait un avant-centre et un ailier. Après,
il n'a ni l'un ni l'autre.
Il y a les opportunités de marché, c'est ce que je dis. Est-ce qu'on peut reprocher ou pas aux dirigeants? Non, mais c'est une question, en tout cas, qui est très intéressante. Quand il y a des opportunités comme Tanguy Ndombele, de le faire revenir, de le relancer à l'Olympique Lyonnais, est-ce qu'il faut saisir la balle au bon? Pas du tout. C'est là où je trouve ça très intéressant. Et Fèvre sur le pour l'avenir, préparer l'avenir, anticiper.
Non, mais... On prépare l'avenir avec son centre de formation. Effectivement, c'est un bon joueur, Fèvre, mais je ne suis pas sûr qu'on ne trouve pas le même genre de profil au sein du centre de formation. Après, c'est toujours plus beau quand ça vient de l'extérieur. Je l'ai vécu par moi-même. Mais du coup, en ce qui concerne Tanguy Ndombele, une opportunité de marché, j'en sais rien. Il jouait plus trop à Tottenham, donc et il jouait plus trop par rapport à son comportement. Donc,
t'as raison, Conte.
Mais c'est pour ça qu'en fait,
reprochait son manque de régularité d'investissement. C'est important de le préciser.
Mais c'est pour ça. Donc, avec quel état d'esprit il revient à Lyon? S'il revient pour se relancer, comme je te
disais, Mourinho,
il aura pas le choix. Mourinho avait déjà fait la remarque, effectivement. Donc, c'est pour ça que je suis perplexe et un peu dubitatif parce que on donne pas les profils que le coach a demandé et on fait revenir des joueurs parce que, enfin. Le doute et ce qui m'inquiète, c'est que est-ce qu'on n'a pas fait revenir Tanguy Ndombele parce qu'il est connu et apprécié des Lyonnais? Voilà, est-ce que c'est pas comme quand on a fait revenir Juninho pour apaiser un peu la situation? C'est toujours le genre de remarque que je me fais ou les questions que je me pose parce que sportivement et dans la configuration de schéma tactique actuel, je vois pas son positionnement à Tanguy Ndombele. Donc Donc oui, je me pose des questions. Je suis perplexe, Razik, vraiment.
Ouais.
Je ne sais pas s'il y a une ligne directrice. Oui, pour le futur, mais on a une saison à terminer. On a des objectifs à atteindre. C'est bien de préparer les saisons futures, mais il faut déjà terminer celle-ci. Et il faut la terminer le plus haut possible. Alors, voilà. Est-ce que l'équipe sera équilibrée? S'il ne change pas de schéma tactique, elle ne le sera pas.
Le dessin du jour, de la semaine, on va regarder ce dessin justement. Il faudrait peut-être un magicien du côté de l'Olympique Lyonnais, en tout cas, pour essayer de bien terminer, conclure ce mercato hivernal.
Un apprenti sorcier, en tout cas.
je pense qu'on va enchaîner sur le... Alors, sachant qu'on prévient, parce que comme on est en direct, bien évidemment, sur le mercato, il peut se passer des choses. Et dès qu'il y a une information qui tombe, bien évidemment, on va pas se priver de vous à la révéler. On va enchaîner avec le... J'ai envie de faire travailler aujourd'hui.
Le quatrième thème, mais je ne sais plus comment on l'appelle. Le temps additionnel, Razik.
Mais ce n'est pas le temps additionnel.
C'est
mais
quoi
si, ah si, c'est le temps
c'est additionnel.
C'est le temps additionnel,
Razik.
C'est le temps additionnel, allez, gagnez tout. Et nous sommes en direct, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est le temps additionnel, ni
merci,
pour la raison. Important aussi de rappeler qu'on avait notre invité, Fares Balouli, en début d'émission, qui est en stage du côté d'Istanbul avec son équipe ukrainienne. Donc, pour tous ceux qui ont raté la participation de Fares Balouli, bah, c'est le replay sur YouTube, sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne Dailymotion, n'hésitez pas, et sur notre site www.olympiquelyonnais.com pour revoir la participation, la
très intéressante en plus de
Fares Balouli en début d'émission. Alors, c'est bien évidemment un match à rejouer, l'OM match OL-OM à rejouer, Nico Puttebois. C'est ce mardi à huis clos, à Décines. Première question, forcément, Nico, match en retard. Il faut les 3 points parce que l'Olympique Lyonnais, encore une fois, est dans l'urgence de points. Il y a un contexte avec un huis clos et avec de nombreux absents.
Oui.
Et ça, c'est problématique par rapport à cette date.
Les Brésiliens sont absents.
Est-ce que c'est scandaleux cette date, Nico?
Je pense que l'Olympique de Marseille était beaucoup plus malin que nous. Ils ont usé de leur temps pour faire appel, pour ne pas faire appel justement de la décision du CNOSF. Je pense que c'était réfléchi. Ils savaient qu'il y avait cette période de matchs internationaux pour les Sud-Américains et ils ont joué avec les règles. Voilà, ça fait partie du foot business et du haut niveau. Il faut savoir être plus malin que l'adversaire et je crois que les Marseillais sur ce coup-là l'ont été.
Avant d'évoquer les blessures,
c'est embêtant mais c'est comme ça.
Avant d'évoquer les absents, les blessés, il faut le dire, on va revenir sur ce côté comptable. En cas de victoire, l'OL peut revenir à 7e, à 1 point du 4e, Strasbourg, et à 6 points du 3e, donc Marseille. Donc
c'est
encore
important,
une fois,
très important.
C'est très important.
Oui, oui, c'est un match à gagner dans le retour en grâce de l'Olympique Lyonnais, si je peux dire, par rapport aux dernières prestations, pas sportives, mais comptables, par rapport aux 2 victoires et au match nul face au Paris Saint-Germain. Il est évident qu'une victoire face à l'Olympique de Marseille nous replacerait, et on serait de nouveau en course pour au moins la Ligue Europa, voire la Ligue des Champions. Donc ce match-là est tout sauf anodin. Il faut vraiment une victoire, mais est-ce qu'on l'aborde dans les bonnes dispositions, c'est moins sûr.
Alors on va regarder, on va lister. Alors je vais un peu baisser ma tête et je vais obligé parce que je peux pas prendre par cœur, mais c'est tellement long, c'est tellement incongru. Paqueta, sélection du Brésil. Toko Ekambi, la CAN. Da Silva suspendu. Kadewere suspendu parce qu'il a eu un carton rouge à Nice. Diomande reprise. Emerson en reprise après Covid. Dembélé positif au Covid. Oussem Aouar touché à la cuisse, absent plusieurs semaines. Oussem Aouar. Et est-ce que j'ai dit Denayer qui était blessé à la cheville?
Non, enfin, voilà. Pas de j'espère mais la liste est complète.
J'espère que je n'ai rien oublié.
L'OL l'infirmerie.
J'espère que je ne me suis pas trompé. Mais
L'OL l'infirmerie
de retour. C'est incroyable, Nico. C'est chat noir, là.
Ouais, on avait l'opportunité de rejouer ce match. Force est de constater, c'est qu'on va pas l'aborder de la meilleure des manières, avec l'effectif au complet et puis avec.
Petite erreur de ma part, Diomande est dispo parce qu'il y a eu la conférence de presse.
Diomande est dispo.
Il y a eu la conférence de presse de Peter Bosz qui a annoncé que Diomande était. Voilà, je l'ai cité. Donc Diomande est dispo pour cette rencontre. 100%, je ne sais pas, mais en tout cas, il est dispo sur le papier. Pardon, Nico.
Non, pas de souci. Non, mais on l'aborde pas avec 100% de notre effectif. Donc, on sait que l'OL aujourd'hui, en tout cas dans l'effectif actuel et dans le contexte actuel, un Noël sans ses meilleurs joueurs, c'est une équipe qui est abordable pour les autres clubs. Donc voilà, à ceux qui ont un peu moins de temps de jeu et qui vont avoir la possibilité de se montrer face à l'OM, bah, de prouver qu'ils ont leur place en tant que titulaire dans ce groupe et peut-être pourquoi pas s'installer. Aujourd'hui, les absents ont toujours tort dans le football et dans la vie en général. À ceux qui ont l'opportunité de jouer le match face à l'OM demain, de prouver qu'ils ne sont pas là par hasard.
Je fais un peu patienter pour le 11 de départ. Oui, le 11 de départ de Nicolas Pupois. Je le fais patienter parce que on a évoqué tout à l'heure, et je t'ai interrogé là-dessus, si c'était pas incongru, si c'était pas scandaleux, etc. Et ben, on a posé la question forcément en conférence de presse à Peter Boss concernant cette rencontre face à l'OM.
À mon avis, c'était pas nécessaire d'arrêter ce match. D'abord, 60 000 personnes dans le stade, une bonne atmosphère. Et il y a un fou qui a fait ça, et tout le monde, et en plus, à mon avis, ce n'était pas nécessaire d'arrêter. L'arbitre ne voulait pas arrêter, c'était que parce que Marseille absolument a refusé de jouer. Donc oui, j'ai en colère, toujours. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'on va jouer un grand match contre une très bonne équipe, sans public. Ça me fait mal. Dans le football, ça arrive. Tu as des blessés. Dans une pandémie, on a des coronas. Dans le mercato, c'est pour les entraîneurs toujours emmerdant parce que là, on ne sait jamais quand les autres clubs y viennent. Donc, c'est toujours une période difficile, mais c'est aucun problème. Ça arrive malheureusement, mais ça arrive. Pour moi, une grosse affiche. L'OM, sans public, ça, c'est emmerdant.
Ça, c'est très emmerdant. Emmanuel, si tu nous regardes. Décidément, Peter, il suit le président de la République. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais peu importe. Ça, nous, on ne fait pas de politique ici. Notre seule politique, c'est l'Olympique lyonnais. Mais c'est vrai que c'est drôle de voir l'entraîneur lyonnais qui doit se dire que c'est peut-être un mot utilisé couramment par les Français. On va... Alors oui, il y a Bravius qui me demande si je vais chausser les crampons. Bah, pourquoi pas, hein, pourquoi
pas, loin, pas si on n'en est pas loin.
Si on peut, dépanner. Par rapport à ton 11 de départ, et c'est intéressant parce que je conversais, et oui, on peut converser, c'est la magie de cette émission, avec la régie, je conversais justement avec la régie, et il me disait, bah, le 11 de départ, c'est pourquoi pas, mais c'est surtout au niveau de l'attaque, les choix de Peter Boss, parce qu'il n'y a pas d'attaquant. Est-ce qu'il faut-il, selon toi, titulariser par exemple Ryan Cherki, ça avait été le cas à Monaco, en 9.
De toute façon, on n'aura pas le choix.
Peut-être Slimani, si jamais il reste. Enfin, comment toi, tu vois la chose?
En tant que numéro 9, je mettrais plutôt Slimani s'il est disponible pour qu'il pèse sur la défense. Mais effectivement, je ferais jouer Ryan Cherki pour apporter son dynamisme mais plutôt dans un rôle soit d'excentré, soit de numéro 10. Après, je sais pas dans quel schéma tactique le coach aimerait aborder cette rencontre-là. Je pense qu'il va agir dans la continuité, en tout cas dans un premier temps. Donc reconduire le schéma tactique du 3-5-2 sur ce match-là, mais j'ai pas de certitude. Bah justement, je pense que c'est le dernier schéma tactique qui a été travaillé à l'entraînement sur les 3-4 dernières semaines, et donc du coup, même ceux qui jouent moins ont travaillé quand même ce genre de schéma tactique à l'entraînement. En tout cas, je l'espère. Donc du coup, ils vont pouvoir s'insérer malgré tout avec des certitudes dans ce que chacun doit faire à quel poste. Donc moi, je reconduirais ça pour avoir des certitudes dans notre jeu, notre relation technique et dans...
Pardon.
Non, pas de souci, vas-y.
Non, parce que j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais, ça m'arrive.
Moi, pas du tout.
ça, on avait remarqué. Merci pour la précision. Sur le côté, tu as raison, c'est-à-dire qu'il l'a dit, en plus, Peter Boss, que c'est forcément une affiche qui a besoin de 3 points et en même temps, pas mal de supporters qui aimeraient voir peut-être aussi des jeunes. Ça peut être Barcola, ça peut être Cherki, comme dit Ulysse. Et comme tu dis aussi, il faut avoir des certitudes, donc c'est toujours trouver le bon curseur.
Sur un match comme ça, je pense que la motivation et l'énergie est décuplée pour un jeune qui doit entamer sa carrière sur ce genre d'événement. Après, il ne faut pas qu'ils aient trop de pression. Donc, je ne les mettrai peut-être pas titulaires. Je les ferai peut-être rentrer en cours de match pour apporter un peu de folie, un peu de dynamisme et de fraîcheur. Moi, je le rejoins dans le sens où ce match aurait dû avoir lieu.
Tu rejoins Peter.
Je rejoins Peter Bosch. Je pense que ce match aurait pu avoir lieu. On a vu partout en Europe. Alors, il paraît que ça arrive qu'en France, mais on a vu ces derniers temps que partout en Europe, il y avait ce genre d'événement et les matchs se poursuivent. Voilà. Après, encore une fois, il faut être plus malin que l'adversaire. Les Marseillais ont joué, ont été beaucoup plus malins que nous, ou en tout cas, ils ont joué avec le règlement. Enfin bref, ils n'ont pas voulu rejouer, ils n'ont pas voulu sortir. Je ne cautionne pas l'acte, mais je pense que il n'y avait pas de quoi. On aurait pu poursuivre la rencontre. Voilà, c'est ça, c'est juste ça, dans mon point de vue. Après, où je suis d'accord aussi avec lui, tous les coachs ont des choix à faire et tous les coachs ont des absents par moment dans la saison avec des blessures, des suspendus et ainsi de suite. C'est à lui de préparer son effectif et tous les joueurs de son effectif à pouvoir intégrer le 11 de départ à un moment ou un autre pour pallier l'absence des uns et des autres, ou en tout cas pallier l'absence des titulaires. Donc ça, c'est à lui et à son staff de bien préparer ceux qui jouent moins à être performant lorsqu'on fait appel à eux. Oui, donc ouais. Ça, pour le coup, c'est un travail d'entraîneur.
C'est ça, et puis il y aura des changements, parce que Thiago Mendes peut être aligné en charnière centrale.
Bien sûr.
Cacré peut se retrouver...
Peut-être Diomandé.
Diomandé aussi. Cacré peut se retrouver un peu isolé. En tout cas, Cacré, honnêtement, il a encore une belle carte à jouer.
Oui, on s'aperçoit que non seulement il revient en forme, et c'est toujours intéressant pour l'Olympique Lyonnais, mais en plus de ça... aujourd'hui, avec le départ de Guimaraes, il va prendre peut-être un peu plus de place, en tout cas ce que je lui souhaite. Mais ce que j'aimerais, c'est que... Parce qu'ils avaient une belle complémentarité, tous les deux, sur les derniers matchs. Donc j'espère qu'il va garder son niveau de performance, peu importe le joueur qui sera à côté de lui.
Il y a Nicolas, décidément, il y a quelques supporters qui sont quand même très sévères à l'égard de Ryan Cherki. Pourquoi pas, encore une fois, libre à vous. Vous pouvez vous exprimer, c'est tous les lundis, hashtag TKYDG. Il y a Nicolas qui nous dit, Cherki, premier ballon, il va tenter une triple roulette. On va voir flou.
Bah, s'il l'a réussi, qu'on va voir flou. Mais, mais oui,
un peu d'ironie par rapport à ça.
C'est pas si d'ironie.
Il y a pas mal de messages ironiques, on va dire, en disant, grosso modo, oui, mais Ryan Cherki, s'il la joue perso, c'est pas la peine, faut le laisser sur le banc, etc.
C'est ce qu'on disait dernièrement, c'est qu'en fait, s'il se sert de ce match seulement pour être bon et efficace et briller, mais par son talent et son efficacité, oui, il faut mettre Ryan Cherki. Si Ryan Cherki veut briller de manière individuelle en faisant des roulettes ou en faisant des gris-gris, forcément, il y perdra. Et on le voit parce que les gens qui l'appréciaient ou qui l'apprécient commencent à se poser des questions par rapport à son individualisme. Donc ça, aujourd'hui, ça commence à le desservir de vouloir briller par son talent individuel. En se mettant au service du collectif, il brillera beaucoup plus.
En tout cas, tu as provoqué la colère de mon ami qui nous dit « Je supporte l'OL, mais dire qu'il fallait reprendre la rencontre OL-OM, ouais, c'est non, non et non.
Voilà. » Ça, c'est chacun. Moi, j'ai pris des boulons, j'ai pris des choses à Ajaccio, en National 2, c'était moins médiatisé, et on a continué. Enfin bref, après peu, chacun sa grille de lecture, chacun son avis. Voilà, moi, je pense que Payet s'est relevé au moment où la civière est revenue vers lui, c'est que voilà, il pouvait se relever. Après, qu'il soit choqué, je le comprends. En tout cas, bref, peu importe, chacun a son avis, maintenant c'est décidé, c'est jugé, le responsable a été condamné, voilà, après le reste ça appartient à l'histoire.
Allez, il y a Di Fegno qui nous dit, c'est clairement le tournant de la saison, mais en championnat uniquement, n'oublions pas l'Europa League, même si bien évidemment elle est beaucoup plus difficile à aller chercher. Est-ce que pour toi c'est le tournant ce OL-OM parce que c'est un match en retard, parce que c'est Marseille en face, ou pas?
Je pense pas que ce soit un tournant, c'est un moment important. C'est pas ce qui va faire qu'on réussisse notre saison ou non. Par contre, en battant Marseille, effectivement, on se replace dans la course pour jouer l'Europe à la fin de la saison. L'Europa League, bien sûr, c'est important. Après, avec l'effectif lyonnais,
c'est ça.
Est-ce que c'est un réel objectif? Est-ce qu'on sera à notre place en gagnant l'Europa League? J'en suis pas certain non plus.
Donc, non, mais avec l'effectif, par exemple, pour le match OL-OM, pour se reparler de ce match-là, par rapport aux absents, etc., ça pourrait être quand même quelque chose de fédérateur de gagner.
Bien sûr. Ah bah oui.
De gagner les 3 points parce que t'as pas tout ton objectif.
Et puis j'irai même plus loin, ça peut même bousculer les choses pour certains.
La hiérarchie carrément.
Selon moi oui. Aujourd'hui la hiérarchie, il y en a une sans en avoir une. Donc aujourd'hui il y en a peut-être qu'on est. On parle de Ryan Cherki. Il a peut-être une place à gagner. Il a peut-être des choses à prouver et peut-être à s'installer. Donc lui comme d'autres. Hein.
Mais c'est ce qu'a dit Peter Boss. Hein.
Donc aujourd'hui
Peter Boss a dit justement en conférence de presse, Nico, grosso modo chacun, enfin tout le monde avait une carte.
Ils ont une carte à jouer. C'est le mot que je cherchais.
Par rapport à cette rencontre.
Bien entendu. Aujourd'hui, comme je te dis, les absents ont toujours tort. Et quelqu'un qui va jouer demain avec une grande prestation et une belle performance. peut chambouler les choses, vraiment. Donc, à eux de faire le nécessaire. En fait, c'est le moi qui étais souvent remplaçant, en fait, c'était ça. Nous, on attendait ce genre d'opportunité pour pouvoir peut-être prendre la gâche et s'installer. Alors, au poste de gardien, quand t'as Greg Coupet devant toi, c'est plus, beaucoup, beaucoup plus compliqué parce qu'il est très, très régulier et puis surtout très bon. Mais là, les jeunes aujourd'hui, les attaquants, les milieux de terrain, il y a des places où on n'est pas prédéfini, où il n'y a pas de personne installée. On le voit bien. Au poste d'avant-centre, c'est compliqué. Où c'est Mawar, son positionnement est plus... Fait plutôt débattre. Il y a peut-être que Paqueta qui pourrait être installé, Cacré, mais après ailleurs, voilà.
Parce qu'on a parlé de Charkim, on peut parler de Shaqiri aussi.
Bien sûr,
bah, aussi se bouger un peu le popotin. Hein.
Bien sûr qu'il doit se bouger le popotin.
Et plus, il a un statut, il a un salaire.
Il a... Non, mais on est bien d'accord après.
Pour être équilibrer les débats.
C'est tout à fait juste, Razik. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Non, mais on parle que de ce qui est intéressant. Shaqiri, pour moi, aujourd'hui, il ne l'est pas, donc j'en parle pas.
On regarde le calendrier parce qu'on l'a dit et on le répète, c'est un mois de février. Compliqué, très chargé pour l'Olympique lyonnais, après la réception de Marseille, un déplacement du côté de Monaco et la réception de Nice, Nico.
Oui, c'est un gros mois de février, un gros mois de février et surtout une grosse première quinzaine. Ça peut être tout bon comme tout mauvais. Donc, en tout cas, on va pouvoir s'étalonner. On va pouvoir savoir si le renouveau de l'OL n'était qu'une passade ou si c'est durable. Donc, voilà, on va se tester. C'est des matchs intéressants. J'espère que, en plus d'avoir des résultats, on aura un semblant de qualité dans le jeu.
Ouais, Monaco qui s'est en plus qualifié en Coupe de France face à Lens, qui a marqué pas mal de buts.
Ouais, 4-2 hier soir, ouais.
Qui a repris de la confiance avec un nouvel entraîneur. Pour toi, le match le plus dangereux, on va dire, le plus compliqué à aborder, c'est plutôt réception de Marseille à huis clos à domicile ou ce déplacement du côté de Monaco ?
Non, je pense que c'est deux bons matchs à jouer. Encore une fois, face à Marseille, la motivation, elle vient toute seule parce que c'est des matchs super importants, c'est des matchs super intéressants et l'adversaire est plaisant à affronter. Donc là, la motivation vient de manière intrinsèque. Voilà, il n'y a pas besoin de grands discours pour préparer ce genre de match. Monaco, dans un stade vide, on commence à en avoir l'habitude. Et puis là, on va jouer deux matchs où il y aura pas trop de public. Donc
parce qu'il y a quand même Sandrou, je suis désolé.
Monaco, ce sera plus compliqué parce que on sait pas à quoi s'attendre réellement. Pareil, changement d'entraîneur, changement peut-être de philosophie, peut-être de joueurs, certains qui auront gagné leur place à l'entraînement. Donc, voilà, on aura plus de certitude par rapport à la composition de l'équipe de Marseille que celle de Monaco.
Il y a Sandrou Alberti qui nous dit, grosse équipe, à jouer avec Boss sur la sellette.
Je ne sais pas s'il est sur la sellette. Effectivement, le président a fixé comme deadline fin février.
C'est ça.
Donc, lui de prouver avec son équipe que c'est l'homme de la situation. Moi, j'aime beaucoup sa philosophie, j'aime beaucoup son discours, j'aime beaucoup ses analyses avant et après les matchs. Donc, voilà, j'aimerais que les joueurs puissent le suivre et lui donner raison sportivement. Donc, mais après, ça m'appartient pas, ça lui appartient plus non plus. Une fois qu'il a mis son 11 de départ et qu'il a fait sa causerie sur le terrain, c'est les joueurs qui font l'animation et le jeu. Donc, à eux de s'emparer de la philosophie mise en place par leur coach.
Il y a Harrison qui nous dit que Marseille est en forme. Lui craint plutôt Marseille. Oui, Harrison.
D'accord avec ça.
Ça va être très dur pour nous.
Oui, je pense que les favoris sont c'est l'Olympique de Marseille.
C'est ce qu'a dit d'ailleurs Bichon Télizarazu sur TF1 aussi.
Ouais, effectivement. J'aimerais ne pas être d'accord avec lui, mais là pour le coup, j'ai pas trop de choix. Ils sont en forme, ils enchaînent, ils ont un effectif un peu plus complet pour aborder ce match-là. Donc eux, ils sont en confiance. Nous, on est en reconstruction. Donc voilà, j'espère qu'ils vont venir avec un excès de confiance. Et qu'on puisse, nous, les battre chez nous, les écraser 1-0, ça m'irait très bien. Comme sur les dernières prestations de l'OL. Mais oui, je pense que, voilà, ils viennent avec le statut de favori malgré tout.
Allez, on arrive à la fin de l'émission. On va quand même informer nos fidèles téléspectateurs que Fares Balouli était là en début d'émission. Donc n'hésitez
très
pas
belle interview.
À regarder.
Il a fait une très belle prestation. Enfin, j'ai beaucoup aimé son discours. Pardon.
Voilà. Donc si vous voulez écouter, découvrir le discours de Fares Balouli, n'hésitez pas. C'est en replay sur notre chaîne YouTube.
Et puis il était souriant, plein de fraîcheur, comme à son habitude. C'était sympa.
C'était très sympa. Et dire aussi que les féminines de l'Olympique Lyonnais ont été éliminées par le Paris Saint-Germain de France.
Enfin, sévèrement. Elles ont pris 3-0. Quoi.
3-0. Et par contre, qualification de
la gambarde.
Lyonnais. La gambarde. Nous, on aime la gambarde ici, bien évidemment, parce que c'est une tradition lyonnaise. C'est vrai. Hein,
ça fait long. Depuis 97, on l'a pas gagné, mais
on est attaché à la gambarde.
On est attaché à la gambarde. On a eu de très bons résultats et ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale.
Exactement. Au tir au but. À Monaco.
À Monaco, justement. Voilà, ils ont montré la voie aux seniors, donc. à l'OL senior, enfin au pro de faire le reste.
Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous bien évidemment sur olympiquelyonnais.com pour la fin du mercato. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à Fares Balouli. Merci à toi, Nico. Et puis, c'est vrai qu'on vous l'avait vendu, promis en tout cas, la présence de notre cher Bruno Chéroux, le directeur, directeur quoi, de la cellule de recrutement.
Non, pas ça, le directeur du recrutement.
Le directeur du recrutement. Merci, Nico, parce que comme ça change beaucoup les intitulés. Directeur du recrutement masculin et féminin. Il devrait être présent donc le mois prochain. On l'espère en début du mois, hein, de février. Donc peut-être lundi prochain, on vous tient au courant en tout cas. Et puis comme ça, on aura pas mal de choses à évoquer avec,
avec lui. Oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous, je l'espère, avec grand plaisir lundi prochain.